Alors, 11e partie de ce Radio Barque, notre invité Didier Codorniou, qui est, entre autres, justement, conseiller régional, même si vous êtes devenu le premier vice-président de cette assemblée, vous étiez déjà depuis un certain temps conseiller régional, et forcément, ce qui a été dit tout à l'heure à propos, par exemple, de Céléran et de ce saupoudrage, vous implique et vous demande une certaine réponse, Didier Codorniou.
Oui, très, très, très rapidement, mais pas uniquement que sur ces deux points. On pourrait donc débattre longuement, mais le temps étant très, très contrôlé, donc, et surveillé. Non, juste sur Céléran. Bon, bien sûr, je reconnais que l'héritage a été compliqué, que les investissements, effectivement, à cette époque-là, étaient des investissements donc avec des montants importants. La transaction et la négociation aujourd'hui avec les domaines, l'estimation des domaines est de 2,4 millions. Et il va y avoir un investissement important de Gérard Bertrand à hauteur de 12 millions d'euros. Et voilà, je voulais uniquement rectifier donc les 400 000 euros, certes, qui sont très insignificatifs par rapport au montant de 8 millions, mais c'était les estimations de domaine. Je vous signale aussi que ce domaine, il a été déclassé donc dans le cadre du PLU, qui a le montant a été dévalué, donc c'est pour ça qu'on retrouve les 2,4
millions. Oui, mais la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
Entre le prix d'achat et le prix de vente, et puis donc l'investissement qui finalement nous est important pour nous, c'est comment donc ce domaine va pouvoir retrouver, pas forcément des lustres d'antan, mais un vrai modèle économique en tenant compte, bien sûr, de la complexité des fermiers aujourd'hui, donc qui occupent aussi cette partie-là avec qui nous sommes en train de trouver une bonne situation. Ensuite...
Oui, juste une petite parenthèse, ça peut aussi peut-être servir de leçon sur les erreurs, ces choix téméraires qui ont été faits à certaines époques.
Je ne sais pas si ce sont des erreurs, parce que sur les PRAE, les parcs régionaux d'activité économique, c'est une volonté du président Georges Frêche, et on voit aujourd'hui ces PRAE, je ne prendrai qu'un, le PRAE de Castelnaudary, aujourd'hui, ça y est, donc il est en fonctionnement avec des grands groupes donc nationaux, je pense notamment à Leclerc, mais pas que, et qui développe une valeur ajoutée, et bien sûr...
Donc ce ne sont pas que des échecs.
Ce ne sont pas des échecs, ce sont
que
vraiment...
Que des échecs,
Ce sont des enjeux stratégiques avec une réponse sur le développement économique et derrière de l'emploi. Ensuite, sur la politique sportive, vous comprenez très bien que sur un budget de 3,6 milliards, on est sur des grands enjeux. Bon, là, effectivement, ce que vient de dire donc mon ami Michel, je peux le comprendre, parce qu'à une époque, on a donc attaqué Jacques Blanc sur le fameux saupoudrage. Là, c'était tout simplement des actions qui existaient avec l'ancienne région Midi-Py, qui permettent à des petits clubs qui n'ont pas des moyens, et c'est vrai que des fois, 400, 500 euros, 1000 euros, 1500, puisqu'en même temps, c'est des petites aides, peuvent améliorer donc le pouvoir d'achat ou les aides apportées à ces clubs sportifs. Et moi, je peux vous dire que sur le millier d'associations clubs sportifs, ils sont aujourd'hui très reconnaissants de cette aide.
Voilà. Simplement, c'était peut-être pas tout à fait l'outil le mieux adapté, la région. Juste un tout petit mot là-dessus, Michel, juste un petit mot rapide.
Mais pour faire une remarque d'ordre général, parce que je n'ai pas eu le temps de la développer tout à l'heure, les Gilets jaunes, quand ils contestent le montant des prélèvements obligatoires dans notre pays, en fait, hein, ils contestent en même temps, effectivement, le mode, en fait, le type de participation que les citoyens ont aujourd'hui par rapport aux institutions qui ne leur permettent de les sanctionner que tous les 6 ans. Or, ce n'est plus possible, effectivement.
Oui,
donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur des grands projets structurants, que ce soit des parcs régionaux, que ce soit des salles multimodales,
est-ce qu'il faudrait des référendums
effectivement, il y a une demande sur les grandes dépenses publiques, fait d'une intervention de plus en plus prégnante, et non pas tous les 6 ans, des citoyens.
Rapidement, il faut qu'on...
Parcs en question, il n'y a eu aucune étude préalable, effectivement.
Voilà, ben en tout cas, le passé étant le passé, maintenant, aujourd'hui, Didier Codorniou est présent à ce micro. Alors, je voudrais revenir sur, d'abord, un dossier qui est très important pour la région, qui vous tient probablement à cœur parce que vous êtes chargé notamment aussi des affaires maritimes, avec une confusion, une polémique récente à propos de l'éolien flottant. Ça a impliqué des confusions, une polémique dans laquelle vous, Didier Codorniou, avez été entraîné avec le sénateur Courteau, entre autres. Donc tout ça a besoin d'un certain nombre d'explications. Rapidement, Michel avait tenté une explication de texte en essayant de remettre à l'heure les pendules, mais on a eu l'impression que tout d'un coup, l'éolien flottant en Méditerranée s'était foutu. Alors
pas du tout. Non, c'est un projet qui est un projet très structurant pour notre territoire. Et en fait, la dernière fois, j'étais un peu agacé. Je trouvais qu'il fallait qu'on joue donc qu'il y ait l'union sacrée sur et ne pas manquer le développement de cette filière en France qui est en train de se construire et en Méditerranée notamment et plus précisément à Port-la-Nouvelle. On parle de quoi ? On parle de cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui manque d'ambition, donc a été proposée par le ministre de la transition énergétique et écologique. Et effectivement, on s'y retrouve pas. On s'y retrouve pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier ministre, lors des assises de l'économie maritime au Havre l'an dernier, avait fait une annonce en disant donc on veut accélérer le calendrier et en clair de passer de la phase expérimentale à la phase commerciale. Et donc, nous, on était très fier et satisfait de cette annonce-là, sauf qu'elle se traduit difficilement dans un manque d'ambition de la PPE qui ne correspond pas, donc lors des appels, deux appels d'offres sur deux façades, une méditerranéenne et une donc atlantique, notamment donc beaucoup plus sur la proche de la Bretagne, et la Méditerranée, comme vous le savez, il y a deux façades, il y a la façade donc sup PACA et la façade Occitanie. Et nous avons deux projets. Et on ne peut pas être en arbitrage sur une Méditerranée qui, aujourd'hui, donc, est en attente de ce développement. Alors, en clair, l'expérimentation va se faire. Donc, les premières éoliennes flottantes, je crois que c'était Michel aussi, à travers son billet, le disait. Le grand port va continuer, donc, à se faire, à s'agrandir. Les quatre éoliennes, donc, expérimentales, on les verra en 2020. Donc, fin 2020, début de mai 2021. Et nous, ce qu'on demande, tout simplement, c'est une révision de la PPE pour qu'on puisse avoir de l'énergie suffisante à produire pour que demain, les éoliennes industrielles puissent voir le jour. Et là, on est sur 2022-2025. Et ce qui nous fait un peu peur aujourd'hui, c'est qu'on a besoin pour que les investisseurs viennent fortement sur notre territoire, mettent donc des moyens à créer donc une filière sur le développement et sur le flottant.
Oui, voilà. Créer un appel d'air, si je puis dire.
Créer un appel d'air à travers l'appel d'offres. Et c'est vrai que l'enjeu, il est économique et il est bien sûr, vous l'avez compris, donc on parle des emplois non délocalisables. Donc si on a une prévision, nous, sur les 15 prochaines années, on est entre 1500 et 2000 emplois et on ne peut pas louper cette transition énergétique, d'autant plus que, comme vous le savez, le gouvernement donc veut se désengager du nucléaire 2035 et la filière donc vent, la filière donc propre que nous proposons est une belle filière. Et plus on aura d'éoliennes et de turbines, plus le coût du mégawatt sera aussi accessible. Et nous, on a des indicateurs qui nous montrent que avec entre 50 et 60 machines, on sera proche donc du kilowatt à l'énergie du nucléaire. Donc l'enjeu, il est économique, mais en même temps, il est aussi stratégique. Mais là, on se projette sur les 20 prochaines années.
Oui, mais il demande une volonté politique. Mais pour être clair, alors Didier Codorniou, puisqu'il y a eu beaucoup de confusion, les deux expérimentations qui sont lancées depuis pas mal d'années courent toujours, à la fois sur Port-la-Nouvelle Gruissant d'un côté, puis le CAT Barcarès de l'autre. Ce qui était remis en cause...
Elles sont financées. Elles vont être donc opérationnelles dans donc un an et demi, et les deux fois quatre donc éoliennes donc auront une réponse énergétique pour 50 000 habitants, donc deux fois 50 000 habitants, 100 000 habitants, les deux expérimentations. Après, ce qui va être important, c'est de construire la filière. Et pour construire la filière,
oui,
il va falloir aussi que le gouvernement sur le nombre de gigawatts, parce qu'en fait on est sur des problèmes de gigawatts sur l'éolien posé et l'éolien à mer. Alors effectivement, l'éolien à mer aujourd'hui, donc l'État n'est pas tout à fait rassuré sur le coût de l'énergie. Et l'enjeu, il est là.
Oui, parce qu'on est en phase d'expérimentation et on ne sait pas encore comment tout cela va se comporter.
Ouais. C'est que ces expérimentations, elles ont deux objectifs. Ouais. Vérifier l'efficacité des technologies la rentabilité.
Oui, oui. C'est ce qui avait été effectivement dit. Alors, Didier Codorniou, pourquoi cette polémique avec le sénateur Courteau? Beaucoup de gens n'ont pas trop compris ce qui se passait.
Non, c'est pas une polémique, ni d'ailleurs avec mon ami Alain Perrier. C'est tout simplement je constatais qu'il y avait une volonté de commenter ou de travailler peut-être un peu en solo sur ces dossiers. Moi, je vous rappelle que depuis que je suis en charge de l'économie maritime littorale, je porte ces projets. Pas quand je dis je porte, le Parlement de la mer porte ces projets. Et que c'est vrai que le sénateur Courteau, je l'ai rarement vu à mes côtés dans le cadre des instances du Parlement, mais pas que, aussi dans le cadre des instances donc du Conseil de façade, mais également du Comité France Maritime. Et c'était un appel en disant, monsieur le sénateur, monsieur le député, mettons-nous autour d'une table sur l'éolien flottant et travaillons donc ensemble, en termes, s'il y a du lobbying à faire, moi je demande que ça, mais après donc à concrétiser ces éoliennes. Voilà, donc c'est pas du tout ni une attaque personnelle, mais je trouvais que il fallait qu'on se mette tous ensemble sur ce projet.
Vous employez le mot très clairement, il y aura besoin d'un lobbying fort et sévère pour que ça fonctionne, vu la timidité annoncée du gouvernement.
Je crois que le lobbying, il faut pas avoir peur aussi de ce mot, quoi. Il s'organise. Je vois, nous sommes allés la semaine dernière donc avec mes amis les pêcheurs pour justement la pêche en Méditerranée, défendre donc cette profession, et il y a du lobbying qui s'organise, et il y a des régions qui le font peut-être mieux que d'autres, je suis prêt, moi, à monter autant de voix qu'il faudra, donc, même au Parlement européen, pour peut-être aussi ouvrir des portes qui ne sont aujourd'hui fermées, ou du moins entrouvertes.
Oui, parce qu'à propos de lobbying, c'est-à-dire, en fait, on choisit l'un plutôt que l'autre, un article de presse, il n'y a pas très longtemps, titré « N'existe-t-il qu'une mer en France ?» C'était à la suite des assises, je crois, auxquelles vous avez assisté à Brest. Sous-entendu, eh bien, nous, la Méditerranée, on serait oubliés au détriment de l'Atlantique ou de la Manche. Alors, est-ce que véritablement vous êtes conscient de ce problème-là, que certaines choses pourraient nous échapper par manque de pression?
Alors, la Méditerranée, c'est vrai que lors des assises donc à Brest, le mot Méditerranée a été prononcé une fois ou deux. Et d'ailleurs, sur toutes les tables rondes, il n'y avait qu'un représentant de la Méditerranée, c'était donc la présidente du port de Marseille. Alors, Marseille existe bien sûr par son ampleur et sa stratégie, et c'est vrai que nous on a tout à construire et tout à faire avec Port-la-Nouvelle, avec Sète, avec Port-Vendres, et on a à écrire donc notre histoire liée donc au monde maritime. Mais je tiens aussi à vous dire que l'an prochain il y aura les Assises nationales de l'économie de la mer et du littoral à Montpellier, donc pour la deuxième fois, et c'est là où on aura aussi notre voix maritime à faire entendre.
Bon, alors voilà qui est un petit peu plus clair. Alors, vous êtes également, Didier Codorniou, maire de Gruissan. On sait que c'est une commune qui a des problèmes avec son quota de HLM depuis fort longtemps. Vous êtes ce qu'on appelle carencé en termes administratifs, c'est-à-dire vous ne correspondez pas au nombre suffisant de HLM, de logements sociaux qu'il faudrait pour une commune de plus de 3500 habitants, c'est ça ? Bon, je crois que vous réagissez depuis pas mal de temps, mais là aussi c'est long à mettre en place.
Oui, c'est très très long, d'autant plus qu'on a eu ce que j'appelle moi communément des recours abusifs, et depuis maintenant 5 années qu'on porte ces projets. Donc, recours par recours, on n'arrive pas à sortir du logement social. Alors, on est effectivement sanctionné. On paie, on est sanctionné à hauteur de 120 000 euros par an. Et on doit se rapprocher, donc, de la production de logement social, entre 20 et 30, voire 40 logements par an. On a un déficit de plus de 250 logements sur Gruissan. Et nous avons une réalité. une réalisation aujourd'hui en cours qui devrait donc se terminer au mois de mai-juin et un autre programme qui devrait démarrer en septembre, donc en septembre, non pardon, au mois d'avril 2019 pour une livraison donc avril 2020. Donc voilà, on essaye de rattraper le temps perdu, mais on essaye aussi d'être accompagné par les services de l'État sur une programmation pluriannuelle donc de production de logement social, enfin du logement pour tous, hein, comme ce mot social des fois donc est à la mode ou peut froisser nos habitants. 80% des habitants du département de l'Aude peuvent prétendre un logement pour
oui,
tous.
Oui, mais ça c'est théorique quand même.
Oui, mais et c'est là où donc il y a aussi de la pédagogie à faire, parce que dès qu'il y a donc un petit bloc de quelques logements, les voisins souvent sont assez mécontents, voire même très en colère, d'où les pétitions.
Partent avec des préjugés en quelque sorte.
C'est beaucoup plus des préjugés parce qu'ils s'aperçoivent que quand les opérations se font, bah, finalement ce sont des gens comme vous et moi qui y habitent, et puis finalement ça apporte aussi de la mixité sociale. C'est exactement ce que nous voulons faire à Gruissant, notamment sur le projet l'écoquartier de la Sagne.
Alors pour les Gruissanais, les Gruissanotes, le quartier donc de la Sagne, c'est le futur quartier qui va se développer ou qui est en train de se développer.
Alors qui devrait se développer, puisque là aujourd'hui donc nous avons même désigné les aménageurs, nous avons l'établissement public foncier donc qui va se positionner aussi, parce que c'est un dossier un peu complexe avec 123 propriétaires, dont la commune de Gruissat est propriétaire, donc avec des surfaces intéressantes. Et on a une volonté donc de porter ce projet, d'ailleurs depuis 10 ans, hein, depuis 10 années, depuis donc les deux derniers mandats successifs, le projet Lassagne figure donc sur notre programme. Et il devrait voir le jour à peu près donc dans les 2-3 prochaines années, par phase, avec une volonté de produire donc entre 600 et 800 logements une fois qu'on aura terminé ce programme. Des lits touristiques aussi, parce qu'on manque donc de lits touristiques donc pour l'attractivité de la saisonnalité, et des services donc des services à l'enfance et à la jeunesse, des services publics de qualité que nous avons peut-être pas tout à fait encore à Gruissant, pour que Gruissant demain, dans les 10 prochaines années, ait une population entre 6000 et 7000 habitants.
Population sédentaire, vous voulez dire.
Population sédentaire, donc très complémentaire aussi avec les services que propose bien sûr la ville-centre, l'Interco. Et puis également vous dire, parce que ça avait été dit par, je crois que c'est par Michel, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que je sois premier vice-président de la région, donc à l'agglomération et à Gruissant, mon temps, en fait, il est très, très impliqué sur des dossiers stratégiques. Vous en avez parlé tout à l'heure avec la défense de l'éolien, mais également la grosse charge donc de responsabilité sur les inondations de ce département, où je suis très impliqué sur ce dossier. Et puis à l'agglomération, j'ai la chance d'avoir comme vice-président et président de notre groupe Édouard Rocher, avec qui je m'appuie beaucoup donc sur lui.
Alors on va y revenir sur un plan plus politique. Un tout dernier mot. La Sagne, c'est à côté, c'est à l'entrée de Gruissant quand on vient de Narbonne, du côté du casino, c'est ça.
C'est quand on rentre à Gruissant. Donc en fait, c'est une zone qui est de défriche avec une activité agricole, quelques jardins. Et dans cet éco-quartier, d'ailleurs, nous allons doubler, voire tripler les jardins communaux, et puis nous ferons aussi des jardins partagés, voilà, donc c'est vraiment un dossier, et puis également très attaché à la culture, nous ferons un éco-art quartier, donc nous allons proposer de toutes formes d'art, donc qui vont avoir une connotation très très intéressante.
Artiste, sur Gruissant, j'en dis pas plus aujourd'hui. Vous voici avisé et averti. Pour conclure, Didier Codorniou, vous venez d'évoquer Édouard Rocher, vous avez en commun la particularité d'appartenir au même parti, le mouvement des radicaux, c'est-à-dire vous êtes tous les deux anciens radicaux de gauche, un parti qui est en train de fusionner avec l'ancien parti valoisien, donc qui, dans un nouveau mouvement ou parti qui s'intitule Mouvement Radical.
Oui, le Mouvement Radical Social et Libéral. En fait, comme vous venez de le dire, le mouvement donc des radicaux. Ce mouvement des radicaux, donc en fait, c'est une émanation du plus vieux, des plus vieux, des anciens partis de France, donc, qui s'étaient séparés avec les Valoisiens et la frange de gauche et le Parti radical de gauche.
Dans les années 1970.
Dans les années 1970, donc, et c'est vrai que, donc, ce rapprochement, préparé hein, depuis maintenant pratiquement 3 années, parce que moi j'ai vécu ce rapprochement avec la volonté de Jean-Michel Baillet et la volonté donc de Laura Hénard, aujourd'hui Sylvia Pinel qui est la présidente du parti, donc deux courants, un peu comme parti historique du Parti Socialiste où j'étais, donc avec des courants, mais là il y a un courant centre-gauche, un courant centre-droit, et avec une volonté d'organiser au premier trimestre 2019, donc l'Assemblée générale extraordinaire avec une élection d'un président ou d'une présidente pour donc travailler bien sûr sur les prochains enjeux, donc bien sûr les européennes, mais également les autres échéances, je pense notamment aux échéances municipales.
Alors pour ces européennes, quid, qu'est-ce qu'il va ressortir de ça? Est-ce que vous partez seul ou est-ce que vous partez allié?
Alors ce que je sais aujourd'hui, puisqu'il y avait eu la semaine dernière une assemblée générale, donc un comité national pardon du mouvement radical, il y a une large majorité donc de représentants qui souhaitent garder leur indépendance, l'indépendance donc qui va nous permettre de travailler sur les projets, sur les programmes. Vous savez que nous sommes très attachés donc à la laïcité, que nous sommes très attachés à l'Europe et que nous sommes très attachés donc à l'innovation, au développement économique. Donc trois branches qui correspondent plus ou moins donc à deux parties, à deux mouvements. Donc je crois que le temps aujourd'hui, il va être donc de consolider ce que je suis en train de vous dire, un seul parti, un seul mouvement, les radicaux, et ensuite dans un deuxième temps, ben d'écrire notre projet, notre programme, avec qui pour l'instant donc je ne peux pas me prononcer dans la mesure où il y a cette volonté de garder cette indépendance jusqu'à quand, je ne sais pas.
Voilà, donc ce qui signifie concrètement et très probablement une liste radicaux ou mouvement radical pour les prochaines européennes.
C'est possible.
Merci Didier Codorniou d'être venu faire le point de l'actualité avec nous sur ce avant-dernier Radio Barque de la saison. Le prochain et le dernier donc du trimestre et de l'année, nous recevrons monsieur Robert Ménard, maire de Béziers, alors tout à fait un horizon politique différent et un regard différent également. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci Jean-Claude, merci Michel.
Thank you.